RFI Matin, la suite. Dans 17 minutes, un nouveau journal et la réaction des Israéliens à la riposte en Iran. Hier, on part avec Michel Paul dans les rues de Jérusalem. On part aussi dans l'Amazonie brésilienne alors que la COP16 se poursuit du côté de la Colombie. Un exemple concret des conséquences de la destruction de la nature. Une étude au Brésil révèle que la déforestation augmente les risques de transmission du paludisme. Vous l'entendrez. À suivre d'ici là, notamment la revue de presse avec Catherine Potet et les États-Unis, notamment à la une. Et puis, ça fait débat avec Wati, votre rendez-vous du dimanche avec le groupe de réflexion ouest-africain. C'est aujourd'hui le dernier épisode après 230 chroniques sur notre antenne. Mais tout de suite, les sports. Bonjour Christophe Dirène.
Bonjour Julien.
De la boxe, c'est le Maroc vainqueur haut la main des championnats d'Afrique à Kinshasa.
Oui, les concurrents du Royaume finissent la semaine avec le bilan le plus élogieux, 11 titres, mais l'RDC n'est pas loin. Derrière, 9 médailles d'or, pour ne citer que les plus prestigieuses. On fait un tour d'horizon des résultats en détail avec Olga Masson.
L'hymne marocain que vous entendez est celui qui a le plus résonné au gymnase Mutombo Dikembe de Kinshasa en clôture des 21e championnats d'Afrique de boxe amateur. Fort de ses 11 médailles d'or, le Maroc a pendant 7 jours imposé sa suprématie aux 25 autres nations présentes à ces championnats d'Afrique, confirmant ainsi son statut de meilleure nation de la compétition. Côté congolais, 21 médailles, dont 9 en or, ont été remportées par des boxeurs de la RDC qui ont régalé le public et confirmé, comme à Yaoundé, il y a un an, leur deuxième place sur le continent. L'une des victoires les plus attendues est celle de Peter Kabeji, sacré champion d'Afrique chez les moins de 86 kilos messieurs pour la troisième fois consécutive, un record pour lui et une performance collective saluée par le général Ilunga Luyoyo, président de la Fédération Congolaise de Boxe.
On s'est fixé l'objectif d'être premier, ring à d'autres réalités. Mais je suis très content des Peter Kabeji, je suis très content des athlètes congolais.
L'autre satisfaction est celle de Yvon Epomo, le sélectionneur du Congo Brazza, dont les athlètes terminent avec 6 médailles, dont une en or.
Nous avons quand même pu arracher 6 médailles. Je suis très satisfait de ces résultats.
Kinshasa aura pendant une semaine vibré au rythme de ses championnats d'Afrique, dont le verdict final a confirmé comme en 2023, le Maroc et la RDC en tête du tableau des médailles. Olga Masangou, Kinshasa, RFI.
Le football à la une également. Le Nigeria obtient 3 points sur tapis vert après sa triste expérience en Libye dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.
Oui, la commission de discipline de la CAF a déclaré ce match perdu pour les Libyens par forfait 3-0 avec une amende de 50 000 $ en prime. Match jamais disputé car les Nigérians ne sont jamais allés plus loin que l'aéroport désaffecté d'Alabrak où ils ont atterri le 13 octobre et où ils ont été bloqués pendant plus de 15 heures sans nourriture ni la moindre explication avant de reprendre l'avion pour Kano. La fédération nigérienne avait dénoncé, je cite, des traitements inhumains.
Et puis le Sénégal, lui, reste le roi du beach soccer africain.
Cinglante mise au point des Lions en finale de la CAN à Hurghada en Égypte. Victoire en finale 6-1 sur la Mauritanie qui a vu le culot de battre les Sénégalais en ouverture de la phase de groupe. 5e titre d'affilée, le 8e en tout pour les joueurs de N'Gala Sila. Entraîneur heureux d'avoir vu son équipe reprendre le bon chemin après cette défaite.
C'était pas du tout évident. Quand tu débutes avec une défaite, il fallait avoir un mental de fer, il faut y croire jusqu'au bout. Mais moi, je crois à mes qualités, avec tout le monde ici, je sais qu'on a une belle équipe et puis on peut perdre dans un tournoi et on a vu qu'une équipe qui monte en puissance. Par rapport à la Mauritanie, c'est une belle formation. On a joué plusieurs matchs avec la Mauritanie en amical, sur 16h chez nous. Mais après, il fallait étudier la Mauritanie, c'est bien vrai, le premier match. On n'était pas du tout rentré dans le match parce qu'il y avait des doutes. Et après, voilà, c'est une équipe qui joue que des contres. Ils n'ont jamais proposé un jeu pour marquer. Et aujourd'hui, on l'a fait exprès de les laisser avec le ballon, de les empêcher de jouer des contres. Le Sénégal était meilleur aujourd'hui.
N'Gala Sila, le sélectionneur du Sénégal de beach soccer, le Maroc a pris la 3e place de cette CAN en dominant l'Égypte 4-3.
Christophe Diremser, merci beaucoup. On vous retrouve dans un peu moins d'une demi-heure. À tout à l'heure.
RFI Matin.
Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche avec à la une une nouvelle page entre la France et le Maroc.
C'est la Tribune Dimanche qui consacre sa une à la visite de 3 jours qu'Emmanuel Macron entame demain à Rabat. France-Maroc, la grande réconciliation, titre le journal. Il s'agit, nous dit-on, d'enterrer une brouille de 6 ans en cause, une succession de couacs, la perte de marchés économiques et un désaccord profond sur la question migratoire. Mais ce n'est pas tout. Ce voyage devrait être aussi celui des gros contrats, explique la Tribune Dimanche, qui voit encore plus loin, évoquant la dimension africaine de la relation franco-marocaine. Avec un marché ouest-africain en pleine expansion, assure le journal, Rabat et Paris ont tout intérêt à mettre en place une offre commune pour répondre aux besoins de la région, alors que le Maroc est le deuxième investisseur sur le continent.
Ouvrons à présent M, le supplément du Monde.
M consacre un long article aux médias numériques, plus 972, allusion à l'indicatif téléphonique partagé entre Israël et la Palestine, précise le magazine. Ce média en ligne a aujourd'hui 15 ans et il a la particularité d'être composé de Palestiniens et d'Israéliens. Avec l'équipe d'Al Jazeera et quelques reporters indépendants, explique M, les journalistes de plus 972 font partie des rares journalistes à travailler dans la bande de Gaza, dont le gouvernement israélien interdit l'accès aux médias internationaux. Grâce à notre travail, estime Rouaida Hammer, l'une de ces journalistes, personne ne peut ignorer ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il faut toutefois composer avec la censure militaire israélienne, à laquelle les médias doivent soumettre leurs publications. Si un article concerne l'armée, les services de renseignement ou par exemple le sort des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, le journal doit le soumettre par mail, explique M. Après quelques heures de consultation, l'armée peut alors interdire la diffusion de certaines informations jugées sensibles.
Direction les États-Unis à un peu plus d'une semaine de l'élection présidentielle.
La dernière trouvaille de Donald Trump, se présenter en sauveur des femmes. Dans l'Express, l'historienne Françoise Coste détaille sa méthode. L'ancien président, dit-elle, met en œuvre deux stratégies. La première, peu glorieuse, consiste à éluder le sujet de l'avortement. La seconde est contre-intuitive. Elle consiste à présenter Trump comme le champion des Américaines. Françoise Coste prend pour exemple la convention de Milwaukee, lors de laquelle beaucoup de femmes se sont succédées à la tribune. Des élus républicaines, des collaboratrices de Trump à la Maison-Blanche, des dirigeantes du secteur privé ou encore des membres de la famille. Dans le même temps, ajoute l'historienne, l'ancien président martèle deux sujets de campagne principaux, l'immigration et l'addiction aux opioïdes. Et pour évoquer ces questions complexes, il s'appuie presque exclusivement sur des figures féminines, qu'elles soient épouses, mères ou proies sexuelles. Il faut croire que cette posture de protecteur des femmes est payante, car le candidat y recourt de plus en plus en jouant à 100% sur l'émotion sans se soucier de défendre un projet, conclut Françoise Coste.
Donald Trump qui trouve dans le journal du dimanche un ardent défenseur.
Disons plutôt que le JDD a décidé de descendre en flèche sa rivale Kamala Harris. En attaquant Trump, estime le journal, la candidate démocrate est surtout en train de flinguer sa propre campagne. Le journal du dimanche appelle cela les bévues de la candidate. Prenant exemple d'une interview sur Fox News où elle s'est montrée peu convaincante sur l'immigration, sur les questions difficiles, ajoute le JDD, Kamala Harris se perd toujours dans les explications, embêtant pour une ancienne procureure. Ses opposants, mais pas seulement eux, parlent de salade de mots, une sorte de digression sous forme de cadavre exquis pour éviter les sujets sensibles. Le journal du dimanche fait mine de s'étonner, estimant que jusqu'ici, la démocrate s'était habilement débarrassée des clichés débités depuis maintenant 8 ans par son parti au sujet de son adversaire. Non parce qu'elle avait davantage de respect pour lui que n'en avait Hillary Clinton, mais pour ne pas injurier des Américains qui ont déjà voté pour lui par deux fois. Deux fois, vraiment, le JDD semble oublier que la deuxième fois, Donald Trump a bel et bien perdu l'élection présidentielle.
Enfin, Catherine, une nouvelle rassurante pour celles et ceux que l'intelligence artificielle effraie.
C'est dans Le Point, l'interview de Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France où il est titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Un professeur qui nous explique que notre cerveau est plus fort que l'intelligence artificielle. Pas question d'avoir des complexes résultats résume Le Point. L'intelligence artificielle n'est pas prête de rivaliser d'intuition, de créativité et de sens de l'à-propos avec notre cerveau. Croyez en vous-même, s'exclame Stanislas Dehaene. Croyez en votre cerveau, apprenez à mieux le connaître, car avec un peu d'effort quotidien, son potentiel d'apprentissage est tout simplement extraordinaire.
Catherine Potet, merci beaucoup.
RFI à Dakar, 92 FM.
Ça fait débat avec Wati, le regard sur RFI du groupe de réflexion ouest-africain. Bonjour Gilles Yabi.
Bonjour.
Un épisode spécial aujourd'hui forcément, puisque c'est le dernier après 5 ans de présence hebdomadaire sur notre antenne.
Oui, toute chose a une fin et c'est avec une réelle émotion que je dis au revoir aux nombreux fidèles de ce rendez-vous, inauguré le 9 novembre 2019. 230 chroniques, une très grande diversité de sujets de réflexion concernant les pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et les autres régions du continent africain, mais aussi un regard ouest-africain sur l'actualité internationale. Une actualité extrêmement chargée, dominée par un enchaînement de crises au cours des 5 dernières années. La pandémie du coronavirus en 2020, bien sûr, tout ce qu'elle a révélé, confirmé et bouleversé dans la marche du monde, les départs chaotiques des troupes américaines d'Afghanistan en 2021 et les leçons dérangeantes qu'il a fallu enfin tirer sur les choix des grandes puissances au gré de leurs intérêts fluctuants au fil du temps, la guerre du Tigré en Éthiopie de 2020 à 2022 avec un épouvantable bilan humain et des crimes de masse toujours impunis, depuis 2022 l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses multiples conséquences sur les pays africains, depuis avril 2023 une nouvelle guerre au Soudan qui n'en finit pas de détruire ce pays au cœur du continent et de fragiliser tous ses voisins, et depuis octobre 2023 la guerre sans aucune limite d'Israël à Gaza, en réponse à l'attaque terroriste du Hamas et son extension aujourd'hui au Liban et même à l'Iran.
Mais la majorité de nos rendez-vous ont surtout été consacrés au décryptage des évolutions politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest, malheureusement négatives au cours de ces dernières années.
Oui, et on aurait voulu proposer une balance plus équilibrée entre des sujets positifs mettant en valeur les progrès réels dans différents secteurs économiques, technologiques, sociaux et culturels, la myriade d'initiatives individuelles et collectives qui changent la vie de milliers ou de millions de personnes dans les pays africains. Mais il était indispensable, moralement indispensable, de regarder en face la réalité de la montée de la violence, de l'insécurité et de la fascination pour la guerre, de ne pas ignorer les signes palpables de la capture de l'État par des groupes au pouvoir, même dans les pays prétendument démocratiques, de ne pas fermer les yeux sur le retour à la loi du plus fort, du plus cynique, se traduisant par des disparitions forcées, des arrestations arbitraires et des condamnations abusives par des institutions judiciaires décrédibilisées. Il aurait été irresponsable de ne rien dire de ce que pourrait devenir une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs de l'Afrique centrale aussi, dans quelques années, si de nouvelles raisons d'espérer une vie plaisante et valorisante n'étaient pas vite offertes à des dizaines de millions de jeunes et d'enfants ultra-majoritaires partout. En tant que plateforme de réflexion et de débat public, nous sommes avant tout ancrés dans la réalité, tenus par une exigence de lucidité dans notre regard sur notre partie du monde telle qu'elle est, sur toutes les parties du monde telles qu'elles sont et sur les perspectives que tout cela dessine.
Alors Gilles, ça fait débat avec Wati, s'arrête sur RFI, mais le travail de Wati se poursuit bien sûr sur toutes vos plateformes.
Absolument, ce rendez-vous, fruit d'une collaboration informelle entre Wati et RFI, sans aucune dimension financière, a permis de refléter une partie de nos publications, de nos tables rondes, de nos dialogues. Ce travail se poursuit et continuera à simplifier, Inch'Allah, comme on dit ici à Dakar, à partir du site internet, de la chaîne YouTube, de nos pages sur les principaux réseaux sociaux, accessibles à toutes et à tous. À très bientôt donc.
Gilles Yabi, à bientôt et merci. Les 230 chroniques de notre rendez-vous restent à réécouter sur RFI.fr. C'est là aussi qu'on retrouve les liens vers votre page. Et bientôt, 6h en temps universel sur la radio du monde. Un peu de musique avant le journal avec l'artiste sénégalais H The Best et son invité et compatriote Deep Doundougis. Réunis ensemble sur le titre Ré, c'est dans la sélection du mois d'RFI.
Xalandu daer fi ñu sekk fepp penchu saren ñu ne xalambi du dem xalambi du dem ndate tollu no fu soor ci xol yi sàgg na ko réeral ñu ne xalambi du dem fu
khalam bi titem oh mangi tege won ci su bu kaade bi ku dem ñew romu ba ko fi ken gisul ñeri ñam ci eut bi ñu na khalam jotul neex fi ci deug bi wante dem bi mo wetal ñi ko sagne fi la nekkon ba xey ni mes mak yang kay jo yo ñu na khalam gi reena ba xamato fo jëm ni do delu fi nga juké ni bisi say no le ni bisi ga no way dari nebu tandem deri si mind du teñu laj yenn say tam nga miri ci naaj ngir kéro iblis ku yag ci teñu gis gis bu gattu du def lu jig nit dem depp lepp ni bubu design jup jek ba lu ci dama reel ñu bëgg gis té ko enemy té ñu bëgg kuku 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 man nga ngi depp lu ci ci live bu jaba ñu fi ñi tax li ñu am mu jup nice té lañ jup
H the best et deep dundugis le titre ré que vous retrouvez dans la sélection du mois d'RFI sur musique.rfi.fr. Et l'info revient dans 30 secondes. A tout de suite sur RFI.
Radio Foot International, le foot des 5 continents.
Les Sud-Américains sont très nationalistes. Ce sentiment-là, l'attachement à la patrie, à l'équipe et tout.
Et puis cette idée qu'on peut jouer avec la limite des règles.
Ça a un nom en Argentine, on appelle ça la vivesse.
Il faut être anglais, il est grand breton quand même, Ferguson.
Ah, il est écossais, dites pas ça aux Anglais, il est écossais. Et puis les Écossais vont pas aimer ça non plus.
Radio Foot International, du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU. Sur RFI.